Le marketing à l'ère digitale. Si tu as appris le marketing à l'école dans des bouquins édités le siècle dernier, tu ne peux pas manquer de connaître les 4 P. Les fameux 4 P du marketing. Product, Price, Place and Promotion. Le produit, le prix, le lieu de distribution et la communication. Tout a changé avec le digital. Tout a changé sauf l'esprit. Plus de techniques, plus de data, plus d'outils, plus d'expérience utilisateur, plus de canaux de distribution. Quant au prix, il est vraiment fait à la tête du client, calculé à la minute en fonction d'où tu viens, de qui tu es, du moment où tu passes pour acheter. Mais qu'est-ce qui a changé depuis les années 80? Quelle place pour les 4 P? Quelle place pour le storytelling et les hommes là-dedans et les clients à l'ère digitale? Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de Virginie Févé, elle est CEO de l'école Startac, et je suis accompagné aussi de Vincent Caltabellotta, bien connu, le fondateur et dirigeant de YouMonkeys. Ils sont avec nous pour échanger sur le marketing à l'ère digitale, pour faire le point et y voir clair. Bonjour Virginie et bonjour Vincent, ravi de vous retrouver ici. Première question pour toi Virginie, quel grand changement as-tu observé depuis quelques années en matière de marketing ?
Déjà, je pense qu'il faut parler d'une société qui a changé, des grands phénomènes, parler de grandes lignes du type la structure du foyer par exemple. On a pu les mêmes, à l'époque on ciblait une famille, pendant 30 ans on avait la même famille, aujourd'hui... On remet en question tout le ciblage de ce côté-là. On peut avoir 2 enfants à la maison et finalement 4 quand on part en vacances. On a aussi les habitudes de travail qui ont changé. Donc ça impacte aussi sur la consommation. On travaille de chez soi, le télétravail, ça a généré de grands changements. On a des concurrences aussi. À l'époque, il y avait des grosses barrières à l'entrée. Il y avait du coup des acteurs, peu d'acteurs sur certains secteurs et qui avaient un monopole pendant longtemps et donc qui travaillaient sur leurs acquis. Aujourd'hui, vous avez des startups qui arrivent et qui déboulonnent sans s'y connaître dans le secteur, enfin qui en tout cas étaient complètement inconnus, qui vont lever des millions et qui vont bouleverser le marché. Mais aussi, on peut parler des réseaux sociaux, qui est une grande nouveauté ces dernières années, où finalement avant t'attendais sur ton téléphone fixe le soir pour partager tes infos. Aujourd'hui, de façon, t'es toujours en mode réaction, donc beaucoup d'émotions, tu partages toute ta vie, tu te construis même une vie numérique. Aussi pour les marques, c'est un vrai sujet puisqu'elles partagent tout, finalement le consommateur partage tout en direct. Je pense qu'on peut parler de 2-3 autres phénomènes. L'information, tout passait par le journal de TF1. Aujourd'hui, le client, il est informé, il se sent même plus informé que toi, c'est le sachant. Il est sur Doctissimo, donc il se sent plus médecin que le médecin. Donc ça aussi, ça remet en question la relation à la marque et comment on va devoir le convaincre. Et puis surtout, il va se fier aux avis clients plus que finalement au descriptif produit de la marque. Et puis après, on peut parler de la proximité avec le téléphone portable. Aujourd'hui, c'est toute notre vie. Ce sont des consommateurs qui l'ont dans le lit le matin. Il y a des études qui montrent même que certains, c'est après même une relation intime avec leur partenaire, le premier réflexe, c'est le téléphone. Donc du coup, faut recréer une relation différente avec des nouveaux supports, quoi. Je pense que ça a beaucoup changé. Alors si on peut marquer les grandes tendances, moi je dirais, sur ces dernières années dans le marketing, c'est, je sais pas, en gros, l'humanisation. On incarne les sociétés, on recherche vraiment des humains derrière, plus que finalement des buildings et des grosses structures. On cherche de la personnalisation, on veut de la co-création. Le consommateur veut être plus impliqué, il veut de l'authenticité, il veut une relation forte avec les marques. Et puis il veut être amusé. Dans une société où finalement le maître mot c'est l'expérience, vivre des choses absolument en permanence, et donc faut le satisfaire tout de suite et de façon exponentielle. Voilà un peu, je dirais, sur les grandes tendances.
Merci beaucoup Virginie, ouais, c'est les grandes tendances. Merci, je vais passer maintenant le micro à Vincent. Vincent, de ton côté, quel grand changement as-tu observé depuis quelques années ?
Bonjour à tous. Des changements, il y en a plein, mais j'ai envie d'en mettre 2 en avant. Le premier, il a rapport à une anecdote que j'ai vécue en 1998. Enfin, j'étais au 20e siècle. J'étais tout jeune dans le marketing à l'époque. Et puis, je me souviens qu'il y avait un gars de la direction de l'entreprise qui m'avait dit « Quand une boîte va mal, les premières personnes qu'on vire, c'est les gens du marketing et de la communication parce que c'est des centres de coûts. Et ceux qu'on embauche, c'est des commerciaux parce que c'est des centres de profit. » Et ça m'avait beaucoup marqué, ce truc-là. Moi, qui étais dans le marketing, je me suis dit « Zut, je suis le premier à sauter s'il y a un problème. » C'est pour ça que j'ai fait du commerce après, d'ailleurs. Et force est de constater qu'au XXIe siècle, je vais pas dire que c'est l'inverse, mais quasiment, en tout cas, le rapport de force, si on peut parler comme ça, entre le commerce et le marketing est complètement équilibré, puisque le marketing est devenu un centre de profit. Et certains services commerciaux commencent à devenir des centres de coûts. C'est-à-dire, on voit des vendeurs dans des magasins, parce que le vendeur, il est là pour finaliser la vente, et finalement on se dit si le parcours client il est assez bien fait, en fait le client il va acheter tout seul. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est justement cette vision parcours client ou expérience client, on se rend compte que le marketing, en fait, prend de plus en plus de pas dans l'amont du cycle. Et qu'en fait, c'est lui qui fait quasiment tout le travail d'acquisition. Donc, quand vous, en fait, tout le travail de prospection. Et ce qui est même amusant, c'est que bah, pourquoi on commissionne des commerciaux, c'est parce que c'est eux qui font l'effort d'aller au charbon et d'aller chercher les clients. Bah, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est plus commercial. Comment ça se passe ? Enfin, bref, ça fait un vrai déséquilibre, en tout cas, ou un rééquilibrage, un binôme entre le marketing et le commerce. N'existait pas forcément avant.
Bah, tout a changé alors, hein. Tout a changé aussi avec le digital. Plus de techniques, plus de data, plus d'outils, plus d'expérience utilisateur, plus de canaux de distribution. Ton point de vue là-dessus, Vincent ?
Mon point de vue, c'est que je donne des cours dans quelques écoles et il y a encore quelques années, je donnais des cours de comportement du consommateur. Et c'est hyper intéressant, le comportement du consommateur, c'est plutôt une approche psycho qu'on fait depuis des dizaines d'années, j'allais dire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est la data qui nous donne la vérité. Avant, il n'y avait pas de vérité dans le marketing. On faisait les choses en amont et puis on espérait que ça fonctionne par une prévision par la psychologie, j'allais dire, du consommateur. Et aujourd'hui, en fait, on regarde ce qui se passe et quand on a assez de data, c'est la data qui nous donne la vérité. Donc déjà, on était dans un monde prédictif, mais plutôt psycho, sans vérité. Et aujourd'hui, on a plutôt de l'observation qui nous donne une vérité qui nous permet de prédire encore mieux. Donc, en fait, c'est la data est reine dans le marketing aujourd'hui. Si on enlève la data du marketing, on revient 30 ans en arrière.
Et toi, Virginie, tout a changé avec le digital, cette technique, cette data, ces outils, ces expériences utilisateurs, ces canaux de distribution. C'est toujours plus de complexité pour les marketeurs.
Oui, je suis d'accord. Bah, si tu regardais justement ce qu'on parle de pourquoi on s'était contacté pour l'émission, j'ai mis la dernière citation, sans data, t'avances les yeux fermés, c'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, on doit tout tracer, tout analyser, parce qu'il ne suffit pas de la prélever, il faut l'analyser. Hein. C'est aussi c'est une vraie compétence. Puis après, sur le consommateur, c'est vrai qu'il est de plus en plus complexe. On a un consommateur qui se sent unique, qui doit se sentir compris, on doit comprendre ses névroses, on doit comprendre ses complexes, on doit comprendre ses valeurs. On doit comprendre qu'est-ce qu'on comble quand on lui vend un produit. Enfin, c'est vrai que quand on parle de psychologie, il n'y a jamais eu autant besoin d'être finalement hypersensible pour bien le comprendre, quoi. Donc, je pense que ça fait évoluer largement les compétences du marketeur.
C'est vrai que tu en parlais, hein, ce qui a donné lieu à l'idée de cet épisode du podcast, c'est le tweet que tu as partagé la semaine dernière, Virginie. C'est un tweet où tu posais la question par rapport à une citation marketing de Seth Godin. Le marketing, ce n'est pas votre produit, mais l'histoire que vous racontez. Alors Virginie, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord ?
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on achète de belles histoires, on achète des... Sans storytelling, c'est compliqué. Regarde le nombre de marques aujourd'hui où finalement, c'est incarné encore une fois par le dirigeant. On peut noter la dernière start-up puissante, là, je ne sais pas si tu en as entendu parler, avec la CEO qui a lancé un sextoys dédié aux femmes. Et du coup, il y a toute une histoire derrière, ou encore Respire. Enfin, toutes ces marques, elles sont incarnées par une histoire qui te projette, qui te génère des émotions, dans laquelle tu te retrouves. Et sans ça, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui. On achète ça aussi.
Et toi, Vincent, tu es d'accord ou pas d'accord ? Le marketing, ce n'est pas votre produit, mais l'histoire que vous racontez ?
Forcément, je peux être que d'accord, même s'il peut y avoir des subtilités. D'ailleurs, je parlais de la data versus la psychologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de psychologie. Et Virginie, tu l'as rappelé, bien au contraire. En fait, il faut vraiment avoir les deux. Moi, si demain, il y a quelqu'un qui me dit « je suis expert de la psychologie et de la data », j'embauche tout de suite dans le marketing. Mais c'est vrai que le storytelling, l'émotion qu'on va véhiculer est hyper importante. Moi, je définis toujours quand on parle d'expérience client, parce que finalement, c'est de ça dont on parle. Il y a plein de définitions de l'expérience client, mais moi, j'aime bien la définir par une succession d'émotions positives. En fait, ton client, il va passer, quel que soit ton produit, quel que soit ton marché, il va passer des étapes comme ça dans son parcours d'achat, dans son expérience. Et si l'expérience est positive, il va basculer naturellement vers l'étape d'après. Et si l'expérience est négative, il risque de s'arrêter ou alors de passer à la concurrence. Et donc, on doit forcément construire son expérience client à travers une succession d'émotions positives. Et donc, forcément, le storytelling là-dedans, il a un poids hyper important. Et puis après, il faut bien comprendre ce qu'est l'émotion. L'émotion, ce n'est pas juste faire des blagues ou des smileys. Il y a vraiment tout un travail la psychologie de l'émotion à faire en marketing derrière. Donc oui, forcément, moi je suis en phase avec ça, forcément.
Tiens, là je prends un commentaire en direct et sur Twitter en live, c'est Magali qui nous dit « Will storytelling est ce qui permet de se démarquer aujourd'hui dans la pléthore d'offres ?» Et Laura sur Twitch nous dit « Exactement, le marketing c'est s'attacher à l'expérience client d'un bout à l'autre de ses points de contact avec la marque en succession d'émotions parce qu'on ne se souvient que des émotions. » Virginie, pourquoi on aime les belles histoires? Pourquoi on aime le storytelling selon toi?
Je pense qu'en fait, on a tous été bercés par de belles histoires déjà. Et puis je crois qu'aujourd'hui, la nécessité, les marques, elles peuvent plus seulement remplir finalement un rôle fonctionnel ou pragmatique. On doit construire, c'est comme une relation de couple, hein. On doit construire une histoire et c'est par des étapes. Et je pense que la toute première, c'est de savoir si déjà on comprend cette histoire, on comprend la marque, est-ce qu'on a des points communs avec elle, est-ce qu'on se sent concerné. Donc on interpelle par de belles histoires qui nous concernent ou pas. D'ailleurs, les marques sont de plus en plus clivantes, hein. C'est des histoires, parfois, tu les rejoins, tu les rejoins pas. Mais je pense qu'on a besoin, et puis on est à la quête d'émotions. Il y avait une marque qui faisait finalement, c'était une action caritative. En fait, elle avait attaqué justement une vidéo par des chiffres. Elle avait fait un beat total. Elle a tout recommencé, raconté une très très belle histoire autour des manques d'eau, etc. Et elle a cartonné derrière avec 1,5 million de personnes qui l'ont suivi. On voit que les gens ont envie d'être quelque part et ils sont vraiment sur cette quête-là de vivre quelque chose d'intense. Et même avec les marques, ça devient bien aussi pour les marques.
C'est Charlotte sur Twitter qui nous dit « Oui, c'est important le storytelling, on l'aime car ça fait référence à notre histoire, à notre enfance, à notre expérience, à notre cœur. » Belphégor sur Twitch nous dit « L'émotion, c'est le meilleur moteur et c'est juste ce que l'on retient par la suite. » Oui, puis c'est l'émotion, nous dit Magali, plus que ce qui est dit qui reste chez le consommateur. Exemple romance pour Intermarché. Vincent, de ton côté, pourquoi on aime les belles histoires? Pourquoi on aime le storytelling selon toi?
Ah bah, j'ai deux versions de la chose. Il y en a une qui est plutôt belle et puis l'autre où je vais mettre un petit bémol. Mais les histoires, c'est ce qui fait notre enfance. On est bercé depuis le début. On a tous les souvenirs d'être dans les bras de son papa, de sa maman, dans son lit du soir, à se raconter ou en tout cas se raconter l'histoire. Et puis les dessins, les films, et qu'on adore les séries, les histoires, ça fait partie de notre vie parce que c'est deux choses. Ça nous permet de nous évader, de penser, de créer des images dans l'esprit et des émotions aussi, donc dans notre cœur et dans notre ventre aussi. On ressent des choses, on peut pleurer en écoutant une histoire et on peut rire en écoutant une histoire. Et puis la deuxième, c'est que ça nous permet de nous projeter. C'est-à-dire on a une capacité de réflexion comme un miroir face à l'histoire et donc de se mettre à la place d'eux. Et donc, les marques, elles ont bien compris parce que ça nous amène non seulement à vivre quelque chose de l'intérieur, à vivre leur produit de l'intérieur avant qu'on l'achète souvent, et en plus, ça permet de se projeter avec le produit. Alors forcément que le storytelling, il est hyper fort et ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nous. On adore les histoires, même si on n'achète pas le produit. On parle d'Intermarché, on n'aime pas les pubs d'Intermarché, mais elles sont là, elles nous portent. Après, c'est pas pour ça que moi, je fais mes courses à Intermarché. Après, par contre, l'histoire, elle doit vraiment être réelle et authentique. Le consommateur, il n'est pas dupe aujourd'hui, même s'il y en a certains qui vont se laisser avoir. Mais l'histoire, elle doit vraiment être forte. Elle doit vraiment ressentir le produit ou le service d'ailleurs, faire ressentir la marque. Si on part dans quelque chose d'artificiel juste parce qu'il faut faire un storytelling, on s'en rend compte, on voit bien, moi, qui suis dans le métier des conférences, il y a des conférenciers qui ont des storytelling qui nous emmènent et d'autres où on se dit, ouais, OK, le mec, il a vécu un truc, bon, mais on ne sent pas vraiment et il ne nous emporte pas du tout. Pour la marque, c'est exactement pareil.
Question courte, réponse courte. Virginie, une question pour toi. Satisfaire le client et le fidéliser, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui de ton point de vue?
Je pense que ça implique de très bien le connaître. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tu dois aller beaucoup plus loin qu'avant. On ne peut plus le segmenter comme avant, segmenter nos clients. On doit comprendre ce qu'il vit, on doit comprendre son histoire, on doit comprendre son passé, on doit comprendre son enfance et tout le vocabulaire qui est associé aussi. Parce que pour pouvoir le toucher, il faut pouvoir l'adresser correctement et que le message percute. Je pense que pour le fidéliser et créer une relation, on parle de l'histoire, mais l'histoire, c'est permettre aussi finalement de dépasser le rationnel. Donc c'est créer un lien qui finalement, au moment de l'achat, entre une promo ou le lien que tu as construit qui est très fort, tu gardes le lien que tu as construit qui est très fort. C'est presque de l'habileté que tu as quand tu payes la marque. Donc c'est fidéliser aujourd'hui, c'est plus seulement te récompenser avec des points à te dire que tu as gagné des cadeaux. C'est te comprendre, c'est t'adresser des choses très, très personnelles, très ciblées. Et puis c'est aussi, on comble plein de choses. Aujourd'hui, on attend de la marque d'être rassurée, d'être divertie, de faire partie de, de la vie, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait du storytelling qui doit être véridique. La relation à la marque, elle est très, très complexe parce que, bah, il faut qu'elle réponde, elle soit conforme aux valeurs profondes de l'individu. Il faut le respecter, il faut lui dire la vérité, il faut lui permettre de s'exprimer à travers sa consommation. Et puis surtout, l'enjeu, c'est de s'ancrer dans les habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as gagné le jeu quand de façon naturelle, le consommateur vient à toi. Tu n'as même pas dit bonjour à ton conjoint et que tu es déjà sur Facebook en train de regarder tes notifs. Bon, bah, c'est déjà bien parti, quoi.
C'est déjà bien parti. Vincent, allez, satisfaire le client, le fidéliser, ça implique quoi aujourd'hui de ton point de vue ? Réponse courte.
Ouais, alors il y a deux choses. Satisfaire, bah déjà, il faut que le produit soit bon et corresponde à l'envie, aux attentes. Donc de toute façon, il y a pas que du marketing, il y a aussi du produit quand même et une forme de technique et de fonctionnalité. Après, je vais aller dans le sens de Virginie en allant peut-être un peu plus loin. C'est que les marques essayent aujourd'hui de vivre avec nous. C'est hyper dur quand tu es une marque de te dire comment je peux vivre avec mon client. Vous parlez des gens qui font leur smartphone après un câlin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font une formation YouMotive après avoir fait un câlin avec leur partenaire, mais en attendant, on peut se poser la question de se dire comment on peut être plus présent. Et le problème, c'est que ça peut être addictif, voire parfois malsain. Pas que la marque aille trop loin non plus dans cette intrusion, mais en même temps, bah, on est tous tentés de le faire. Donc, il y a ce double truc, il y a la qualité du produit qui satisfait, et puis après, c'est comment je fais pour vivre avec le client ou être là, en tout cas, au moment où il aura besoin de moi. Et là, bah, j'ai tout le spectre des outils marketing, digitaux, communication pour le faire. Mais par contre, c'est souvent des gros casse-têtes. Et c'est pas si facile que ça. On le dit facilement là, mais c'est pas facile à faire.
On change un peu de séquence, on change un peu de prisme. On va parler de celles et ceux qui sont des hommes et des femmes de marketing. On va parler de leurs évolutions, l'évolution des compétences des marketeuses et des marketeux. Tu en penses quoi, toi, Virginie ?
Je pense que le métier a évolué, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit là sur les quelques questions. Maîtriser la data, c'est quand même assez nouveau. C'était pas tous les marketeurs à l'époque qui maîtrisaient ça. Et puis de façon plus pointue, hein, tu peux plus te permettre d'aller avec tes vanity metrics qui te font plaisir. Faut vraiment performer, faut évoluer, faut se fixer des objectifs. Puis il y a vraiment cette approche. Je crois que les deux piliers, c'est data psychologie. Il faut aller beaucoup plus loin. Et pareil, tu ne dresses plus des cibles dans des tableaux Excel. Tu vas beaucoup plus loin pour comprendre ton consommateur. Donc, je pense que derrière, les skills sont vraiment évolués. Et tu dois redoubler d'efforts pour être... Parce que tu le sais, tout peut être remis en question. Quelqu'un peut déboulonner, une boîte peut déboulonner sur le marché et te bouger de là. Donc, tu dois en permanence te renouveler. Je réfléchissais souvent au secteur. Il y a certains secteurs qui sont très assis depuis des années, des sociétés très assises depuis des années, qui sont en train d'être bousculées par des nouveaux acteurs et qui finalement sont parvenus à la question essentielle, à quel problème tu réponds, et qui ne remettent pas ça en question. Et donc, elles sont toujours à la traîne, en train de mettre de la promo, de l'acquisition, jusqu'au jour où, effectivement, il y aura des relations bien plus fortes qui seront marquées avec des nouvelles startups et qui vont les sortir du jeu, quoi. Je pense que le marketeur, c'est ça, c'est cette capacité à te remettre en question et te re-challenger sans arrêt, quoi. Une forme de résilience.
Allez, pour aller plus loin, on va bientôt finir l'enregistrement de cet épisode. Quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser, selon vous, pour aller plus loin, pour anticiper, pour prendre un peu de recul, pour mieux comprendre ce qui va changer dans les années à venir, selon vous ? Vincent, on commence par toi.
Alors, qu'est-ce qui va changer ? Il y a déjà une chose, c'est qu'on va continuer la lancée de tout ce qu'on vient de dire là déjà. Après, dans le rôle du marketing lui-même, moi, je voudrais quand même mettre le doigt sur quelque chose, c'est que quand on se projette dans les années 80-90, le marketing, c'était déjà pas si facile que ça, mais il y avait finalement peu d'options, peu d'outils. Aujourd'hui, c'est hyper, hyper complexe. On commence à se perdre, il n'y a plus forcément de règles, on fait du test and learn, on choisit entre des stratégies SEO, SEA, entre les réseaux sociaux, le social selling, la com, les médias aussi historiques. Ça devient hyper, hyper compliqué. Après, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui veut faire évoluer son marketing, et ce que je remarque des lacunes qu'on peut avoir, c'est que ces dernières années, on a fait évoluer la notion de persona comparée à la cible. Avant, c'était une cible, c'est plutôt statique. La persona est beaucoup plus comportementale. Et celui qui ne comprend pas, qui ne se projette pas dans ses personas, qu'il soit marketeur ou commercial, mais particulièrement les marketeurs, il peut, à mon sens, pas faire du bon boulot parce qu'il peut pas ressentir, il peut pas vivre justement avec le client. Donc, je pense que cette notion de persona et de personnification va aller encore plus loin forcément. On a des outils qui vont évoluer aussi. Tu as fait une belle interview sur les compagnons virtuels TTC il y a quelques jours. Ça aussi, tout ça va évoluer. On va de toute façon aller vers du marketing de plus en plus spécialisé, avec des mix de médias et de supports. Le marketing et la marque vont nous suivre, comme c'est déjà un peu le cas. d'un device à l'autre, d'un support à l'autre, d'un événement à l'autre. Et ça, c'est le challenge du marketing qui prend plus en plus de place dans nos vies, quoi. On ne peut plus vivre sans marque, sans marketing, sans communication aujourd'hui, avec les écueils que ça peut avoir, parfois trop, à voir comment ça évolue. Pour l'instant, il n'y a pas de législation par rapport à ça. C'est à peu près ce qu'on veut. Donc moi, je le vois évoluer comme ça. En tout cas, le métier va continuer à évoluer. Et je vois aussi, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une évolution du rapport entre ce commerce et ce marketing au profit du marketing plus que du commerce. Voilà, ce fameux centre de coût, centre de profit qui va évoluer au profit du marketing.
Merci Vincent. Et toi Virginie, les grandes questions qu'il faut se poser pour aller plus loin, pour anticiper, pour prendre un peu de recul, pour mieux comprendre ce qui va changer dans les années à venir?
Je rejoins Vincent, je pense qu'il va y avoir une recherche de plus en plus forte de personnalisation qu'on ne va pas pouvoir gérer manuellement, donc il va falloir trouver des solutions. Bon, l'IA, c'est une des approches aussi, hein, comment on arrive à personnaliser de façon automatique cette relation avec les gens et de répondre de plus en plus à cette quête. Quand tu arrives dans un magasin aujourd'hui, tu comprends, tu as tellement de discours personnalisés sur les produits. Je trouve que c'est un vrai enjeu. Après, je dirais que il y a plein de tendances. On ne sait pas vraiment ce qui va perdurer, mais je crois que ce sera quand même cette relation qui va devoir être de plus en plus forte, parce que la concurrence va être de plus en plus rude, et donc il va falloir créer ce lien très très vite et très intense, et l'ancrer dans le quotidien de chacun.
Ben merci beaucoup. Tiens, le mot de la fin, on va le laisser à Laura, qui nous écrit beaucoup sur Twitch. Voilà, absolument, les territoires d'expression de la marque sont tellement nombreux qu'il est facile de se perdre, de se fourvoyer, il faut faire des choix, choisir, c'est renoncer, et puis il faut personnaliser en gardant l'émotion et l'humain à l'humain. C'est un équilibre délicat. Merci beaucoup à Virginie, à Vincent, merci à vous tous qui avez mis des commentaires sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch en direct. C'est la fin de l'enregistrement de cette capsule qui est disponible sur ta principale plateforme de balado-diffusion. Si tu nous écoutes sur l'une de ces plateformes, profite qu'il y ait une petite fonction sur ton application qui permet de partager sur les réseaux sociaux, ça fait un bien fou. Et si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, un chouette commentaire, ça fait un bien fou à l'algorithme et puis au moral. Merci à toi, à bientôt, ciao ciao.